qui est Richard Jeulin ? Et puis, j'étais étonné des nombres de pages qui sont sorties. Donc, je sais tout de toi. Ce qu'il m'en a dit, j'allais dire, était factuellement à peu près juste. Il n'y a rien de scandaleux. Mais en même temps, j'ai eu ce sentiment qu'il ne... Enfin, il me connaît par ailleurs, mais à partir de cela, il ne me connaissait pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est fondamental dans un être humain, ses émotions, ses sentiments, ça n'apparaît pas dans un relevé de carrière, si vous voulez, fait à partir d'un certain nombre de journaux, de télé, de radio, où on a récupéré des infos. En fait, ça ne disait rien de l'essentiel de qui j'étais. Ça faisait un parcours. Puis bon, en l'occurrence, rien n'était faux, mais il pouvait très bien y avoir du faux. Et en fait, je repensais à ça parce que j'avais eu ce désir, cette conviction de partager avec vous ce matin la méditation. Alors, je rappelle que normalement, peut-être pas le mois prochain, mais je vous invite à méditer un psaume du psaume 139. Et le psaume 139 parle de connaissance et une connaissance pourrait être quelque chose d'inquiétant, de troublant. Hein, quand on imagine quelqu'un qui connaîtrait absolument tout de vous, il y a des choses qu'on n'aimerait mieux pas qu'elles soient trop connues, sans être pour autant dans le scandale. Écoutez le psaume 139. Là, je le lis dans ce qu'on appelle la NBS, la nouvelle traduction seconde. Seigneur, tu m'as examiné à fond. Tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite me saisira. Je dis, au moins les ténèbres me submergeront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère, je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur, sonde-moi, et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de toujours. Amen. Quelle prière, n'est-ce pas ? Aimeriez-vous parler ainsi au Seigneur avec cette lucidité, cette confiance, cette intimité. Vous savez, c'est la richesse des psaumes, c'est la diversité des expériences humaines qui viennent se compléter. Vous avez d'autres psaumes. Alors, le psaume qui était lu tout à l'heure, le psaume 22, avec ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Moi, je pense souvent au psaume 13 qui dit « mais pourquoi n'es-tu pas là ? Pourquoi es-tu absent ? Pourquoi suis-je invisible à ton regard ?» Tous ces psaumes de l'interrogation, de vie en souffrance, de vie en difficulté, de vie dans l'inquiétude. Et puis, ce psaume qui est peut-être le psaume de quelqu'un qui est à la fin de son existence, déjà quelqu'un qui a vécu et qui a fait un constat. Cette prière, elle s'ouvre sur ce mot « Seigneur ». Il s'adresse vraiment au Seigneur, dont je vous rappelle que c'est le terme qui est utilisé pour dire le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, hein, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et quand on interrogeait les rabbins, pourquoi dire trois fois Dieu ? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça devrait suffire. Non, non, c'est parce qu'il est bien le Dieu d'Abraham, qu'il est aussi le Dieu d'Isaac, qu'il est aussi le Dieu de Jacob et qu'il est le Dieu de chacun de nous. C'est le nom d'une promesse, c'est le nom d'une fidélité. Et ce psaume va, comment dire, témoigner, justifier que oui, Dieu est bien le Seigneur de l'Alliance. C'est la prière donc de quelqu'un qui considère, avec un peu de recul, tout le cours de sa vie. Et vous avez remarqué que ça va de sa conception jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui, à l'évidence, a connu des moments tragiques. Il a vécu cette crainte d'une immense solitude, la peur d'être abandonné, d'être devenu comme invisible au regard de Dieu, mais qui découvre que Dieu est là, que Dieu a toujours été là. Quand ainsi s'éprouve la présence du Seigneur, quand cette présence nous habite. Alors, c'est vrai que le mot « fidélité », ce n'est plus un mot simplement de la théologie, ce n'est plus un mot de la doctrine, ce n'est plus un mot, c'est l'expérience d'un apaisement radical. Une épreuve cesse d'être écrasante dès lors que cette assurance que Dieu est là est vécue. Ça ne veut pas dire que l'épreuve disparaît, ça ne veut pas dire que les circonstances changent, on peut demeurer dans l'épreuve, mais que l'épreuve perd sa force d'écrasement, elle perd sa puissance de désespérance, parce que m'habite la paix de celui qui sait que Dieu est là. Cette perte de la puissance de désespérance de l'épreuve, on la retrouve par exemple lorsque Paul parle de la résurrection, donc de la mort du Christ et de la résurrection, au chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens. La mort qui est tous devant nous, qui peut être une inquiétude, qui est parfois pour certains une immense détresse. On dit « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? Christ est ressuscité, même dans la mort, il est présent. » Seigneur, tu connais, au verset 2, tu connais mon intention, mon chemin, mon projet, ma pensée, avant même que je les ai arrêtés. C'est donc un psaume d'une confiance qui est fortifiée par l'expérience. Cette connaissance parfaite que Dieu a de moi, que Dieu a de toi, je crois que ça devrait nous étonner. il n'y a dans ce psaume aucune angoisse. On pourrait légitimement penser que l'idée que Dieu me connaisse à tout instant de ma vie, en toutes circonstances, à tout moment, pourrait être angoissant. Eh bien non. On sent le psalmiste apaisé, rassuré. Il n'y a pas trace d'une culpabilité angoissante à cette idée-là, Dieu sait tout de moi. Au contraire, ce regard de Dieu apaise, rassure. C'est le propre de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance n'abandonne jamais les siens. Vous savez, on est à l'opposé de ce qu'on appelle le monde orwellien, hein, ceux qui ont lu l'œuvre d'Orwell, où la surveillance omniprésente du système politique, elle détruit toute liberté, elle détruit toute joie. Là, on cherche à fuir cette surveillance, on cherche à fuir ce regard. Mais, pour le dire peut-être autrement, notre Dieu veille sur nous. Il est le Dieu qui veille, il n'est pas le Dieu qui surveille. Alors probablement vous avez été frappé en lisant ce psaume par le passage soudain de cet émerveillement à une diatribe violente à l'encontre d'ennemis qui sont aussi les ennemis de Dieu. Et le psalmiste en arrive à crier sa haine hein, envers ces êtres sanguinaires qui, dit-il, utilisent même le nom de Dieu pour lui nuire. Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Alors, on peut s'interroger, qu'est-ce que ça vient faire là, dans cette louange de confiance, ce cri de colère contre l'ennemi? Alors, peut-être se rappeler que ce psaume, il est, dans ce qu'on appelle techniquement l'attribution, il est relié à David, du chef de chœur de David. Alors, juste en un mot, quand un psaume est dit de David, ça ne veut pas toujours dire que le psaume a été écrit par David. Hein, vous avez par exemple à la fin du deuxième livret des psaumes, psaume de Salomon, vous avez le psaume, et puis à la fin vous avez fin des prières de David. Ça veut dire soit que le psaume appartient à un style, à un recueil de psaumes qui sont ceux qui sont selon David. Alors certains ont été composés par David, d'autres à la manière de David, ou d'autres encore, ce qui est certainement le cas de celui-là, c'est que pour le lire, pour entrer dans sa profondeur, on peut le lire en méditant l'expérience de David. Or, dans ce psaume est évoqué un temps de fuite, un temps de détresse. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Si je me couche au séjour des morts, si... Alors, ce n'est même vraiment pas un « si », là. Je dis, au moins les ténèbres me submergeront. On peut penser ici qu'il y a en arrière-plan de ce psaume l'expérience qui nous est racontée dans le premier livre de Samuel. Je vais juste prendre le temps de lire quelques versets. C'est au chapitre 26 et 27, mais rassurez-vous, je ne vais pas lire les deux chapitres, loin de là. Lorsque Saül, il en a été aussi fait, je crois, allusion là tout à l'heure, Saül est à la poursuite de David, cherchant à le mettre à mort. Alors, 1 Samuel, donc, chapitre 26, les versets 19 à 20. « Maintenant, ô roi, mon Seigneur, écoute-moi, je te prie. Si c'est le Seigneur qui t'incite à me faire du tort, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des humains, qu'ils soient maudits devant le Seigneur, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher du patrimoine du Seigneur en disant « Va servir d'autres dieux ». Ô que mon sang ne tombe pas à terre, loin de la face du Seigneur. Car le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. David est dans ce texte, il est donc pourchassé par les sbires de Saül. Puis, au verset 27, il s'est enfui de la terre d'Israël et il trouve refuge chez Achish, qui est un seigneur philistin. Donc, il trouve refuge dans une terre païenne. David, chassé de la terre d'Israël, selon ce que l'on croyait à l'époque, la culture qui occupait le Moyen-Orient ancien, il y avait un lien indissociable entre la terre, le lieu et le culte. Dieu était le Dieu d'un lieu, d'une terre, d'un pays. Et être chassé de sa terre, c'était être privé de Dieu. Or, ce qui est d'abord vécu par David comme un drame, être chassé de sa terre, donc être chassé loin de Dieu, se révèle être une expérience extrêmement constructrice. David découvre qu'aucune frontière ne limite son Seigneur, que même s'il est chassé pour un temps, il dit ça, mais pour un temps sur une terre païenne, il n'empêche que là, dans le monde païen, Dieu demeure avec lui. Et la rédaction finale de ce psaume, elle est probablement en lien avec Babylone, avec la destruction du temple et de la déportation. Alors, c'est des choses qui se construisent, mais les psaumes 137, 138 et je crois 139 font partie de cet univers du monde babylonien, puisque la déportation pour Israël signifiait la fin. Avoir été renvoyé loin de la terre, avoir été privé de la terre d'Israël, c'est-à-dire la fin d'un peuple, la fin d'une foi, la fin d'un culte, l'anéantissement, la destruction du temple, l'anéantissement de l'identité d'Israël, et Babylone, lorsqu'ils y sont au départ, pour les Israélites, c'est l'enfer dont il est question au verset 8. Hein, si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Israël va apprendre qu'à Babylone, quand tout a été détruit, dans cet enfer lointain, Dieu demeure avec son peuple sur les rives de l'Euphrate. C'est-à-dire que c'est un psaume qui renvoie au drame pluriel, multiple d'Israël, tant dans la figure royale de David que dans la tragédie absolue de la destruction de la cité et du temple. Et que toujours Dieu est celui qui non seulement est là, mais qui connaît son peuple, qui connaît chaque personne de son peuple. Et ce verbe « connaître », il est tout à fait essentiel. Vous avez remarqué qu'il fait comme un chemin de cailloux blancs tout à l'intérieur du psaume. « Tu connais, tu sais, tu connais mon coucher, mon lever. » Verset 6, « mystérieuse connaissance, étonnante connaissance qui me dépasse. » La manière dont Dieu me connaît me dépasse. Scrute-moi, sonde-moi et connais mon cœur. Dans la pensée biblique, le verbe connaître est un verbe extrêmement dense, extrêmement riche, mais qui ici exprime la capacité d'être présent, d'exercer une autorité, qui en l'occurrence est une autorité de salut, une autorité de sauvegarde. Que le Seigneur me connaisse représente alors pour moi une sécurité, une espérance, une assurance. Non, je ne suis pas abandonné. Vous rappelez la parole de Jésus, la promesse de Jésus, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est la promesse qu'il dit à ses disciples, leur annonçant le don de l'Esprit. David découvre que le Seigneur le connaît mieux qu'il ne se connaît lui-même, le comprend mieux qu'il ne se comprend lui-même. De loin, tu discernes mes projets. Une pensée n'est pas dans ma tête que déjà tu la connais. Un mot n'est pas sur ma langue et déjà, Seigneur, tu le connais. Personnellement, je ne suis pas tout à fait certain de me connaître bien moi-même. Je demeure un mystère à moi-même. Je crois que je ne suis pas le seul. Et l'apôtre Paul le dit, hein, quand il dit « mais je désire faire le bien et je fais le mal que je ne veux pas faire », il dit cette incompréhension qu'on peut avoir de soi, la Celui qui nous connaît le mieux, ce n'est pas nous. Ça, c'est une erreur radicale. C'est le Seigneur qui nous connaît le mieux. Et le psalmiste continue à s'étonner, « Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits mes jours, avant qu'aucun d'eux même n'existât. » Il n'est pas un anonyme parmi des anonymes. Pour le dire autrement, tu n'es pas un anonyme parmi des anonymes. Tu n'es pas une fourmi dans la grande fourmilière universelle. Tu es connu de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es gardé par Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un peuple, d'une collectivité, mais il est le Dieu de chacun. Chaque être est précieux pour lui. Il n'y a pas une personne ici ce matin, pas une seule, qui ne soit pas connue de Dieu, aimée de Dieu, précieux devant Dieu. Vous devez relire simplement les évangiles. Hein, les multiples rencontres de Jésus attestent abondamment combien chaque être à sa propre histoire, son être propre. Chaque personne des évangiles qui rencontre Jésus existe devant Jésus, pour lui-même, dans sa singularité. Dieu sait mieux qui je suis que je ne le sais moi-même. Et c'est extraordinairement apaisant. Ça, voilà. Dans son amour, il me connaît mieux que je me connais, c'est une source de paix. Je suis très étonné en lisant et relisant ce psaume de voir que ce psaume qui fait, je vous dis, qui va de la conception jusqu'à la mort, dans ce psaume, Dieu ne juge jamais. Son regard ne cherche jamais motif à condamnation. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans le monde non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le regard de Dieu sur toi, c'est le regard du Père qui voit au loin le retour du Fils et qui court à sa rencontre, qui va au-devant de lui. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Peut-être des temps où on a envie d'échapper à Dieu, ce n'est pas impossible du tout. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, on pourrait mettre entre parenthèses, malgré moi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me submergeront, voilà que la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. David fuit devant Saül par peur. Il fuit pour ne pas mourir. Et on sait bien dans nos existences combien on est tenté de fuir, combien, de bien des manières, on est quelquefois tenté de fuir. Mais où qu'il aille, Dieu est là. Et il est là comme le Père, il est là comme le compagnon, il est là comme le Seigneur, il est là comme l'ami. Irait-il au ciel? Te voici. Mort, enfer, terrible, c'est genre des morts. En ce lieu où Dieu est réputé ne jamais être, aux enfers, te voilà. Vous savez que ça a l'air de rien, mais dans la pensée d'Israël, c'est une parole qui est stupéfiante. Elle est presque inaudible. Parce que s'il y avait un lieu où Dieu ne pouvait pas être, c'était dans le séjour des morts. Et le psalmiste dit, eh bien, même là, en vérité, même là, Dieu est présent. Il est présent là où nous n'aurions jamais cru qu'il pourrait être. Et il est là pour toi. Il est là pour moi. Aucune circonstance, aucun lieu, aucune détresse ne lui est inaccessible. Vous savez, cette idée de cette présence de Dieu dans le séjour des morts, c'est ne va pas l'affirmer, mais c'est peut-être la source de la pensée de Paul. C'est lorsque Paul écrit aux Éphésiens qu'il parle du Christ, et il dit à ce moment-là qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Le symbole des... Alors, nos traductions, elles ont un peu de mal à rendre ça. Le symbole des apôtres, pour ceux qui peut-être l'ont connu, s'en souviennent, disait « il est descendu aux enfers ». Et je pense que si le symbole des apôtres le dit en reformulant un peu la pensée de Paul, c'est sur le fondement, entre autres, du psaume 139. En n'importe quel coin de la terre où la violence de l'existence m'aurait chassé, où mes persécuteurs m'auraient chassé, Seigneur, ta main me conduit, ta droite me soutient. J'ai dit, au moins que les ténèbres m'engloutissent. J'ai dit. Alors, peut-être enlever là le « si » qui est dans certaines traductions, c'est probablement pas une hypothèse. David a été traversé par ce désir de mort, comme Élie le sera plus tard. Hein. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie quand il a peur, lui aussi. Il a peur d'Akab et de Jézabel qui ont décidé de le mettre à mort. À un moment, il se réfugie au désert et il veut mourir. « J'en peux plus, Seigneur, maintenant, reprends ma vie. » On le sait bien, quand cette tentation qui nous habite, quand l'existence devient insupportable, tentation de se recroqueviller, de se tapir dans l'ombre, comme si là, loin de tout regard, loin de son propre regard, on allait trouver, on ne sait pas quoi, un résidu de paix, une espèce d'espace hors temps, hors réalité. Terrible souffrance, terrible combat que celui-ci. Mais le Seigneur est dans sa bonté, dans sa tendresse, dans sa fidélité, même là, même dans ces moments-là, il est là. Il confesse, David, qu'alors quand tout nous pointe vers la nuit, quand on aspire aux ténèbres, pour ne plus voir l'invivable, pour ne plus être vu, là encore, le Seigneur nous rejoint, son regard nous illumine de sa tendresse. Et c'est une pensée qui revient souvent dans les psaumes. Hein. Vous connaissez le psaume 27, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De qui aurais-je peur? De quelles circonstances? Qu'est-ce qui pourrait finalement vraiment me faire peur, puisque le Seigneur est ma lumière et mon salut? Ouais, le psaume 36, « Car auprès de toi est la source de la vie, à ta lumière nous voyons la lumière. » Vous voyez, ce sont des paroles de psaume qui sont nées dans l'expérience tragique. Ce ne sont pas des paroles d'optimisme, ce sont des paroles d'espérance. Cette présence de Dieu fait vivre dans l'espérance. Et nous nous réjouissons en réécoutant la parole de Jean. En lui, Jésus-Christ, en lui, parole de Dieu, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres. Voilà, frères et sœurs, souvenez-vous, un jour, les ténèbres... En pleine journée, les ténèbres couvrent Jérusalem. Le Seigneur, dans son abandon, dans sa détresse, crie ce psaume qui l'habite. C'est pas une citation, c'est pas qu'il cite pas le psaume, mais comme on fait des citations littéraires, c'est sa prière. À ce moment-là, sa prière, c'est ce psaume. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On l'a aussi entendu tout à l'heure. Jésus meurt. Son corps est placé dans la tombe. Mais au troisième jour, le voici vivant. Et nous vivons aujourd'hui de cette résurrection. Où que nous allions, en quelque épreuve où nous nous trouvions, Jésus a été. Et là où il a été, il demeure présent pour secourir les siens. Alors, apprenez à relire ce psaume, non plus à la lumière de David ou à la lumière d'Israël, mais essayez de le relire à la lumière du Christ Jésus. De voir comment le Seigneur Jésus vient donner un sens très, très fort à ce psaume. Alors bien sûr, on terminera là, demeure le mystère du mal. Pourquoi le Seigneur ne le débarrasse-t-il pas de ces êtres malfaisants qui cherchent sa perte ? posé encore hier la question du mystère du mal, hier après-midi. Devant ce mystère du mal, David est conduit à une sagesse. Il ne répond pas à la question du mystère, mais il en reçoit une sagesse. Il demande à Dieu de sonder son être, de scruter tout ce qu'il y a de plus intime en lui, tous les ressorts de son être, et de le garder dans la voie, alors on peut traduire dans la voie éternelle, qui est la voie de la justice, qui est la voie de la vérité, qui est la voie de la paix. Parce que si ce n'était pas le cas, si ce n'était Dieu qui le conduit, il serait au risque de devenir un de ces êtres violents, un de ces êtres qui utilisent le nom de Dieu pour mal agir. J'aimerais vous laisser avec ce qui me semble être aussi une résurgence du psaume 139 dans le Nouveau Testament, en l'occurrence dans le fameux texte de Paul aux Éphésiens. C'est la fin du chapitre 3 de l'Épître, où voici ce qu'écrit Paul. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. » C'est-à-dire son être, le nom c'est l'être, hein, « afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à jamais. » Voilà, c'est ma conviction, ces paroles de Paul, quelque part, voilà, son résurgence de sa méditation de ce psaume. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'aimerais simplement partager avec vous, comme notre prière, la prière de Patrick, Saint Patrick, ça vous dit quelque chose ? C'est un... Alors, c'est pas la Saint-Patrick qu'on fête dans les pubs, hein. Ça c'est malheureusement les retombées. C'est cet apôtre évangélisateur de l'Irlande, du Pays de Galles et même probablement d'une partie de la Bretagne, passionné de la cause du Christ, un homme tout à fait remarquable, et qui avait cette prière, en tous les cas elle lui est attribuée. Vivez avec l'assurance que le Seigneur est au-dessus de nous pour nous bénir, devant nous pour nous guider, derrière nous pour nous protéger, à nos côtés pour nous consoler, au-dessous de nous pour nous soutenir et en nous pour nous faire vivre. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.